Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Le locataire intérieur. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De ma fenêtre, je regarde la neige. Elle a tombé cette nuit à gros flocons, à tout recouverte d'une épaisse couche blanche. Maintenant, le ciel est gris. L'arbre au milieu de tout ce blanc n'est plus qu'un trou noir. Seul, au milieu du champ, il fait tache. Il n'y a pas que lui qui fait tache. Ce sol lisse est imprimé des traces de chaussures d'hommes et des taches rouges sur ce blanc, cela fait désordre. Cette nuit, j'étais très fatigué, trop fatigué pour les enlever. Il faudra que je le fasse. Je n'en ai pas le courage. Il fait trop froid. Il est allé à l'évier se nettoyer du sang qui a giclé sur son visage, ses mains, sa chemise, souliers et pantalons. Il y a du savon et une éponge. Il nettoie grossièrement sa chemise. Le sang ne part pas. Il décide de changer chemise et pantalon. Il va voir dans l'armoire. Nettoie ses chaussures. Chemise et pantalon, se lave encore une fois, met la chemise et le pantalon, prend son manteau, lâche qui cache sous son manteau et sort de l'appartement. Il sort de l'immeuble. Tranquillement. Puis, après un quart d'heure de marche, il entre dans son immeuble. Il monte aux étages. La leseuse doit dormir, car elle n'aime pas sortir voir qui était rentré. Frédéric se réveille mal. Il est tout courbaturé, comme s'il venait de faire un rude travail. Ses membres sont raides. Il a une douleur à l'épaule droite qui va jusqu'au bras. Sa main droite est toute raide. Il a l'impression d'avoir mal dormi. Se lève. Il va préparer son café car la logeuse ne vient plus le lui apporter. Après avoir bu son café, il s'habille comme il peut. Car ses vêtements lui font un effet désagréable. Ils sont humides et froids. Ses chaussures sont trempées. Il se dit que c'est à cause du chauffage qui n'est pas assez fort. Mais quelque chose lui dit que c'est autre chose. Avant d'ouvrir la porte, il se regarde dans la glace qui se trouve contre le mur. Il se voit les yeux rougis qui lui sortent de la tête. En sortant de sa pièce, il entend dans l'allée, en bas, la logeuse qui parle au nouveau locataire.
« Vous avez dû avoir peur, mon pauvre monsieur. »«
Oh, si vous aviez vu ça, tu sens partout. » Une vraie boucherie. J'étais de service cette nuit, mais je m'en serais bien passé. Moi qui suis si sensible.
Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un étranger qui ait fait ça.
Oh, pour sûr. Bon, je m'en vais me reposer un peu. Je suis complètement retourné.
Je vais vous apporter votre café.
Merci bien. Et...
il monte les escaliers. Frédéric n'ose pas entrer chez lui, de peur que la porte ne fasse de bruit. Il décide de descendre les escaliers, lui aussi. Qu'il vient d'entendre l'a profondément troublé, comme s'il était coupable de quelque chose. Durant toute la journée, à l'université, dans la rue, l'on ne parle que de ce crime. Frédéric ne sait où se mettre. Il entre chez lui le plus discrètement possible pour n'être vu de personne. Dans la nuit, son sommeil est tourmenté. Il rêve de sang sur la neige. Un soir, en rentrant chez lui, en montant les escaliers, entre deux étages se trouve un petit renfoncement sombre où se trouvent les compteurs d'électricité et d'eau. Il voit que dépasse du renfoncement à terre quelque chose qui l'attire. Il s'approche pour ramasser. C'est un manche, une hache, où la lame est tachée de sang. Tachée de sang. Et, juste au moment où il va le déposer dans le noir, pour le cacher, apparaît sa logeuse qui monte les escaliers avec un plateau pour un repas. Elle a tout juste le temps de cacher la hache sous son manteau. Elle le croise et le regarde d'un drôle d'air. Une fois qu'elle s'est éloignée, il s'aperçoit que dans sa précipitation, la hache n'a été qu'à moitié cachée. Il s'est dit qu'elle a dû la voir. Si je la cache dans l'allée et qu'elle la trouve, elle saura que c'est moi qui l'ai mise. Il remonte chez lui. Une fois chez lui, il enveloppe la hache de papier journal. Dans la soirée, il sort, se dirige vers les quais. Les rues sont désertes, descend sur la berge et jette dans le fleuve la hache. Il se retourne et voit un clochard, vieux à barbe blanche, lui dire « Aussi, on veut oublier tes souvenirs pénibles. » se sauve en courant. Passe une nuit agitée, a de la fièvre, en sueur, mal à la tête, tout tourne autour de lui, aimerait dormir, se réveille, voit pencher sur lui sa logeuse, puis le policier. Il a bien mal en point. Qu'a-t-il fait de la hache? On devrait faire avec lui comme pour la fille. Vous ne trouvez pas? Hein? Il entend de derrière la porte des cris, des cris. Du sang qui coule, 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 coule. Il se réveille en sueur. Ce n'était qu'un cauchemar. Il reprend sa vie. Mais il ne sait pourquoi. Il sent qu'on le regarde d'un drôle d'air. À l'université comme dehors. Et puis, sa logeuse, lorsqu'il se passe devant elle, a un air méchant. Il ne sait pourquoi, mais il se sent coupable. Qu'il passe dans une rue parallèle à la sienne, il voit sur la façade d'un immeuble appartement à louer. Il entre dans l'allée. L'allée lui rappelle quelque chose. Il va frapper à la porte du concierge. C'est un petit homme, maigre, sans âge, avec un béret.
Qu'est-ce que c'est?
C'est pour l'appartement qui est à louer. Regarde bien Frédéric.
Vous voulez le voir?
Oui.
Je vais prendre les clés.
L'homme va chercher les clés. Et conduit Frédéric, qui se sent de plus en plus gêné, coupable, comme s'il revenait sur son crime. Le concierge va ouvrir la porte de l'appartement. Frédéric a le corps qui bat. Il est entré, semble reconnaître la pièce.
Voilà, j'espère que vous ne craignez pas de vivre dans un appartement où il y a eu un crime. Si vous la prenez, ce sera facile pour déménager. Voyez la porte, là, contre le mur. Elle ouvre sur votre pièce. C'est votre propriétaire qui a fait cette ouverture lorsqu'elle a acheté ici.
Frédéric comprend que la porte condamnée de sa chambre, où il entend tant de bruit, donne dans cet appartement.
Alors, vous la prenez, cette pièce?
Frédéric, effrayé, se sauve en courant. L'homme lui crie du haut des escaliers.
On revient toujours sur les lieux de son crime.
Frédéric se sent coupable, comme un criminel. En passant devant la porte de sa propriétaire, la porte s'ouvre. Elle lui dit
« On vous demande au téléphone !»
Il est surpris. Elle lui dit « Allez, faites vite, parce que j'ai pas que ça à faire, moi, hein !» Il entre. Ça sent le pipi de chat. Elle lui montre le téléphone qui est sur une commode. Un chat noir est assis à côté. Elle donne un geste de la main pour le faire sortir. Le chat l'a giflé et se sauve.
Sale bête !
Frédéric prend l'appareil. Allô ? Je suis Iphigénie.
Oh, bonjour. Vous allez bien ?
Oui, merci, mais je viens de recevoir une invitation étrange. Je dois me rendre à 23h. Au 19 rue du Bref pour une soirée et il est prévu que je sois accompagné, alors j'ai pensé à vous. Il lui dit, n'y alliez pas, ce doit être une farce.
Non, je ne pense pas.
Alors il lui dit, téléphonez pour savoir si c'est vrai. Elle lui dit, j'ai téléphoné mais ça ne répond pas. Vous ne voulez pas m'accompagner? J'en ai envie. Bien, comme vous voudrez. Ce soir, devant mon immeuble, à 22h30. Bien, j'y serai. Merci, à bientôt. Oui, à bientôt. Il remet l'appareil à sa place. Le juge lui dit,
il ne faudra pas que je serve de standardiste. Je n'ai pas que ça à faire, moi.
Pardonnez-moi, madame. Merci. Il met un billet près du téléphone. Et sort. À 22h, il est devant son immeuble. Elle est sortie. Il va vers elle.
Bonjour, bonjour. Ça me fait plaisir que vous acceptiez de venir avec moi. Vous avez vu ma robe ?
Elle ouvre son manteau marine et lui monte une robe courte rouge.
Vous êtes ravissante. Allons-y.
Il lui prend le bras.
Il a mis son costume marine, mais elle n'en a pas fait réflexion. Les femmes ne pensent qu'à leur toilette.
Ils partent à pied. Les rues sont désertes.
Arrivé à la rue Bref, il est surpris. Elle est toute petite, étroite, triste, avec des immeubles lépreux. Vous êtes sûr que c'est là ?
Oui.
Dans une rue aussi laide ? Oui, mais il ne faut pas s'y fier. Quelquefois à l'intérieur.
Les appartements sont de vrais petits bijoux.
Ah, voilà, le numéro 19.
L'immeuble est de 2 étages, le preux, presque délabré.
Vous êtes vraiment sûr que c'est là ?
On n'entend pas de musique.
Elle hausse ses épaules et dit.
C'est bien le 19.
Elle met la main sur la porte de l'allée qui s'ouvre.
Elle n'était pas fermée. Ils entrent.
Appuie sur la minuterie. Lampe au plafonnier éclaire. Il n'y a plus que les emplacements pour les boîtes aux lettres. Ça sent le moisi. Il y a des ordures sur le sol.
Frédéric dit, c'est abandonné. Nous partons ?
Non, puisque nous sommes là.
Allons voir.
Il monte les escaliers.
Arrivée au premier, elle regarde les noms sur les portes.
Ah, voilà, c'est ici.
Elle va sonner.
Attends, puis voit que la porte est ouverte.
Elle la pousse.
Nous entrons, ce doit être une farce.
Ils entrent.
Elle demande, y a quelqu'un ?
Pas de réponse. Suivent un couloir, ouvrent une porte.
La pièce est vide, sale, abandonnée.
Elle va ouvrir une autre porte.
Frédéric a le frisson et dit « L'on s'en va ?»
Elle lui dit
« Oui, je crois que c'est une farce. »
Et il s'en retourne.
Malheureusement, arrivé devant la porte d'entrée, ils voient qu'elle est fermée à clé. Ils essayent de l'ouvrir. Rien à faire. Elle se met à crier.
Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez !
Pas de réponse.
Lui aussi se met à crier.
Ouvrez ! Ouvrez ! Ouvrez !
Et essaye de pousser la porte avec son épaule.
Rien à faire.
Qui a fermé cette porte ?
Demande-t-il.
Je ne sais pas.
Et il tourne en rond et dit
« Tâchons de voir s'il n'y a pas une autre sortie. »
Ils paniquent tous les deux.
Cours dans tous les sens dans l'appartement. qui est immense, ouvre des portes.
Les portes mènent dans d'autres pièces. C'est un appartement en enfilade. Ouvre aussi des placards. Ils ont chaud et commencent à avoir peur. Elle dit, c'est prisonnier. Si je n'avais pas le vertige, je me lancerais par la fenêtre. Faites-le, vous. Non, je ne peux pas. Cherchons encore, dit Frédéric. Il veut ouvrir une porte. Il voit dans un placard un noble, grand, maigre, avec un manteau, le visage émacié, qui les regarde. L'homme tombe à terre. Et voit qu'il a un couteau dans le dos. Ils ont tout juste eu le temps de se reculer pour éviter qu'il ne tombe sur elle. Elle panique, prend peur. Il la maintient. Et ils l'éloignent du cadavre. Ils reprennent des enfilades de pièces vides et sales, seulement éclairées par des fentes et des persiennes. Il la maintient. Il tape à toutes les portes. Enfin, une qui s'ouvre. Elle donne dans l'allée. Il quitte l'allée. Le quartier en courant. Après un quart d'heure de course, tous deux épuisés, il la fait asseoir sur un banc. Elle lui dit, on nous veut du mal. Pourquoi ? Demande-t-il. Parce qu'il faut quelqu'un pour endosser tous les crimes qui se font dans la ville. Il reste un moment sans parler. Elle lui dit, j'ai peur pour mon père. Je dois vous quitter. Elle se lève, lui aussi. Je vous accompagne. Il la suit d'un bon pas. Elle court presque. Il lui demande. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur pour votre père? Parce qu'ils savent qu'ils sont sur le point d'apprendre quelque chose de capital sur la ville. Quelque chose qui doit rester secret. Son arrivée devant chez elle, elle lui dit au revoir et elle le quitte. Dans son allée, il retrouve sa logeuse dans les escaliers en chemise de nuit.
« Il ne faut pas rentrer aussi tard, monsieur Frédéric. J'ai besoin de sommeil, moi. »
Elle le regarde de la tête aux pieds et lui dit
« Vous êtes sale. Où avez-vous passé la soirée ?»
Elle sourit.
Il lui dit « Vous savez peut-être mieux que moi. »
Et il la dépasse.
pour monter chez lui. Réveillé par des bruits bizarres qui proviennent de derrière la porte condamnée. Il se lève pour aller voir. Il essaie de voir par le trou de la serrure, mais il ne voit que du trou noir. Il en a assez de ce bruit, et pour faire arrêter, il tape, il crie. Arrêtez, arrêtez, tous ceux qui refusent. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Respiration. C'est effrayant. C'est effrayant. Ses forces alcooliques l'amenuisent. Il doit aller s'allonger. Et il dort d'un coup, d'un sommeil noir. Noir. Puis, la neige et des taches de sang. Le lendemain soir, à la sortie de l'université, il barre le passage une Rolls noire. Un chauffeur sort de la voiture.
l'écran. Un peu fort, blond, sans âge, quitte sa casquette et dit
« Monsieur, ma maîtresse désire vous parler. »
« Qui êtes votre maîtresse ?»«
Elle vous le dira elle-même. »
Il hésite. Le chauffeur lui dit
« Il le faut, monsieur. »
Et ouvre la porte de la voiture. Frédéric se dit « Qui sait ? Peut-être aurai-je la solution de tout cela ?» Et il s'engouffre dans la voiture. La voiture file et va sur les hauteurs de la ville. C'est le quartier résidentiel de la ville. Le chauffeur longe une petite avenue, puis va s'arrêter devant une demeure du XVIIIe siècle, sombre mais noble. Il ouvre la portière à Frédéric qui sort. Un majordome le conduit dans la maison. Et va ouvrir une porte. Pour le faire entrer dans un grand salon Louis XV. Les meubles sont très beaux, mais les couleurs des tentures, dessus de chaises, tapisseries sont passées. On dirait que c'est un décor noir et blanc coloré avec des couleurs pâles, passées ou délavées. Les meubles sont très beaux aussi. À peine entré, une femme est entrée par une autre porte en face. Elle est grande, mince, très belle, les cheveux noirs en chignon, habillée d'une robe d'intérieur longue rose. Frédéric la trouve très belle, mais sa pâleur la rend irréelle.
« Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. »
Elle lui montre une chaise. Il va s'y asseoir. Elle va s'asseoir sur le canapé en face de lui.
Je vous ai fait chercher, c'est pour savoir pourquoi vous avez tué Philippe Mailleux.
Il est surpris. J'ai tué personne, madame. Il ne connaît pas cette personne.
Il était mon frère.
Frédéric panique un peu. Je ne l'ai pas tué.
Mais qui d'autre, alors?
Je ne sais pas. Lui panique. Elle reste calme, comme si c'était une chose anodine.
Ce n'est pas vous. Vous devez le trouver.
Comment, madame?
En me disant ce que vous faites ici.
Mais madame, c'est votre chauffeur qui m'a... Elle met la main sur son front et dit...
Pardonnez-moi, j'ai perdu la tête. Je vous crois, mais les étrangers sont très mal vus dans cette ville. Si quelque chose ne va pas, c'est de leur faute.
Elle est de plus en plus pâle et dit
« Partez, nous reverrons plus tard. »
Ils se lèvent tous deux. Elle lui dit
« Mon chauffeur vous ramènera chez vous. »
Elle le quitte en prenant le même chemin qu'elle était, d'où elle était venue. Il sort du salon. Le chauffeur est derrière la porte. Il l'attendait. Arrivé chez lui, il trouve la porte de la pièce ouverte. Voit quatre pattes, avec une serpillière, un seau à côté d'elle, sa logeuse qui nettoie le sol. Il voit que l'eau du seau est rouge. Il lui dit « Que faites-vous ? Que s'est-il passé ?» Elle lève la tête et lui dit, en haussant les épaules, « Comme si vous ne le saviez pas. »« Non, je ne le sais pas. » Elle se relève péniblement. Met la serpillière dans le seau et se dirige vers la sortie. Voilà, c'est propre. Et elle sort de la pièce. Frédéric aimerait s'en aller. Il en a assez de cette ville, de ce logement. De toute façon, rien ne le retient ici. Il peut étudier ailleurs, dans un autre pays, dans une autre ville, n'importe où. Mais pourquoi ne part-il pas? Pourquoi reste-t-il ici? Ne peut-il pas partir? Ne veut-il pas partir? Il ne sait plus. Il ne sait pas. Madame Mayer lui téléphone.
Je vous téléphone, je vous prévenir. Vous êtes en danger. On vous veut du mal. Beaucoup de mal.
Mais qui, madame?
Tous. Ils sont tous complices. Vous devez venir chez moi. Mon chauffeur vous attend à votre porte. Je vous supplie d'accepter. Sortez tout de suite de chez vous.
Bien. Merci, madame. J'arrive.
De chez lui, dehors, il trouve la voiture avec le chauffeur. Radio Canet vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, de Locataire intérieur, dont c'était la troisième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRS.